Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net.
Nous avons repris ces enseignements du combat spirituel, c'est que l'Église est confrontée à un grand combat dans notre génération et que l'Église a reconsidéré la parole du Seigneur pour à nouveau se saisir des promesses du Seigneur, pour entrer dans une victoire, soit une victoire personnelle, soit une victoire collective. Nous avons donc considéré mardi soir cette séduction qui se présente devant nous. Et ce matin, je voudrais que nous puissions continuer sur un sujet qui souvent est mal perçu, parce que nous ne savons pas si ça vient de Dieu ou si ça vient de l'ennemi. Et je voudrais ce matin que nous sachions quelle est la différence entre les attaques que nous pouvons, auxquelles nous pouvons être confrontés et la tentation. Peu sont au courant ou peu sont aptes à discerner entre les deux. Plus tu es ignorant, et plus tu peux être soumis à la séduction. Plus tu es ignorant et plus tu peux être soumis à la tentation. Qu'est-ce que la tentation? La tentation, c'est un complot délibéré. C'est un plan élaboré. C'est un complot, un plan. Quand il y a un complot, c'est plusieurs personnes qui se rassemblent. Par exemple, dans l'histoire de l'humanité, les empereurs romains ont été soumis à beaucoup de complots et beaucoup de gens se sont unis pour tuer l'empereur et prendre leur place. Quand Satan agit sur une personne, il va dresser un complot, c'est-à-dire qu'il va mettre autour de cette personne plusieurs sortes d'esprits qui vont venir pour comploter contre cette personne. Donc c'est un complot, mais si un plan. Un complot ne peut être délibéré que s'il a été auparavant élaboré. C'est un guet-apens pour nous faire chuter dans le mal, d'une manière consciente ou inconsciente. Mais ce plan est dressé sur un seul terrain, sur le terrain du vieil homme à demi crucifié. Et si c'est sur le vieil homme que ce plan, ce complot est élaboré, c'est que ça va s'adresser à l'homme au travers de ses cinq sens, de ce qu'il voit, de ce qu'il touche, de ce qu'il entend, de ce qu'il sent et de ce qu'il goûte. Et c'est vrai que la tentation, elle nous accroche le plus souvent par les yeux. C'est vrai ou pas? Aussi parce que nous entendons ce que nous voyons, ce que nous entendons, ce que nous touchons et ce à quoi nous goûtons. Voilà ce que Paul va déclarer dans 2 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 11. Ceux qui ont leur Bible, c'est très bien. N'oubliez jamais que la Bible, c'est l'épée de l'esprit. C'est cette épée qui nous permet de gagner des combats. 2 Corinthiens chapitre 2 versets 10 à 11. Voici ce que Paul va déclarer. Or, à celui à qui vous pardonnez quelque chose, moi aussi je pardonne. Car moi aussi ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, je l'ai fait à cause de vous dans la personne de Christ. Verset 11. Afin que nous ne soyons pas circonvenus. Qu'est-ce que cela veut dire? Très intéressant parce que, en général, nos versions françaises ne nous donnent pas le sens très précis des mots du texte original. Et j'aimerais ce matin que nous puissions comprendre ce que nous lisons. Afin que nous ne soyons pas circonvenus, ça veut dire afin que nous ne perdons pas avantage sur nous. Parce qu'il va gagner ou parce qu'il va prendre de l'avantage sur nous en nous dupant ou en usant de fraude. Il va user de fraude. Il va nous duper. N'est-il pas le père du mensonge? Et n'a-t-il pas engendré une semence de menteurs? Afin que nous ne soyons pas circonvenus par Satan, ça veut dire afin que Satan ne prenne pas avantage sur nous, ou afin que Satan ne gagne pas du terrain sur nous, afin qu'il n'use pas de fraude contre nous, afin que nous ne soyons pas dupés par lui. Car nous n'ignorons pas ses desseins. Voilà que Paul s'adresse aux Corinthiens en disant qu'il, lui, n'ignore pas ses desseins. Qu'est-ce que cela veut dire? Le mot qu'il a ici dans le texte, c'est le mot agnoneo qui vient de gnosis, dont la racine est gnosis. Or, gnosis veut dire en grec connaissance. Ça veut dire que nous ne devons pas être ignorants, que nous ne devons pas être dupés, que nous ne devons pas ne pas comprendre, que nous ne devons pas ne pas connaître, car l'ignorance nous fait errer et nous amène à pécher à travers l'erreur. Afin que nous n'ignorons pas, afin que nous n'agissions pas follement, afin que nous savions pas faire le mal par ignorance, Et Paul va dire, dans toutes ces choses, nous ne devons pas ignorer ses desseins. Ça veut dire, nous ne devons pas ignorer sa méthode par laquelle il vient pour nous tenter. Donc si Paul nous dit ces choses, c'est que l'Écriture répond à cette question, n'est-ce pas? Car l'Écriture n'affirme pas une chose pour laquelle elle ne donne pas une réponse. La tentation a un but redoutable, un but très redoutable. C'est qu'elle a pour but de nous faire chuter. C'est différent de l'attaque. L'attaque, c'est un assaut de l'ennemi sur la personne elle-même, sur sa vie, sur l'honneur de la personne, sur la réputation de la personne, sur le milieu familial de la personne ou dans le milieu professionnel de la personne. C'est une attaque délibérée. Tu vois, il se dit être chrétien et dans son lieu de travail, il fait n'importe quoi. Et vous voyez les gens qui commencent autour à dire sur vous toutes choses de mauvaises choses. C'est une attaque. Si votre témoignage est bon, ça ne peut être qu'une attaque. L'ennemi va se servir des moindres petits faux pas que vous faites pour vous attaquer, pour vous discréditer. Nous allons regarder comment l'ennemi agit avec le Seigneur pendant son temps où Jésus a exercé son ministère sur la terre. Et vous allez voir que il a subi ces attaques-là, il a subi le discrédit sur sa vie, sur son honneur. Il a subi des choses que nous n'avons pas subies nous-mêmes parce que ils sont allés loin dans les accusations concernant le Seigneur. Et nous allons voir quelques exemples. Par exemple, dans Luc 4, versets 22 à 30, nous allons voir que des gens même vont vouloir s'attaquer à la personne de Jésus pour lui faire du mal. Verset 22, il est dit ceci dans Luc 4. « Et tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait, celui-ci n'est-il pas le fils de Joseph ?» Verset 23, il leur dit, assurément, vous me direz cette parabole, médecin, guéris-toi toi-même, fais-ci aussi dans ton pays toutes les choses que nous avons ouï dire qui ont été faites à Capernaum. Et il dit, en vérité, je vous dis qu'aucun prophète n'est reçu dans son pays. Et en vérité, je vous dis qu'il y avait plusieurs veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, de sorte qu'il y eut une grande famine partout le pays. Et Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, sinon à Sarepta de la Sidonie, vers une femme veuve. Il y avait plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée le prophète, et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Naaman le Syrien. Verset 28. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue en entendant ces choses. Et s'étant levés, ils le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'au bord escarpé de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, de manière à l'en précipiter, mais lui passant au milieu d'eux s'en alla. Voilà une attaque personnelle sur la vie de Jésus. D'abord, ils vont jeter le discrédit sur sa vie. Ils vont le tenter, n'est-ce pas, en lui disant, puisque tu as fait des miracles à Capernaum, là-bas, où on a entendu dire que beaucoup de miracles se sont accomplis, comment se fait-il que tu puisses pas en faire un petit devant nous, n'est-ce pas, à Nazareth? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, n'est-ce pas? Il y a eu des tentations directes avec l'ennemi dans le désert quand Jésus est rentré dans son ministère. Quand il lui a dit, mais jette-toi du haut des murailles du temple et ordonne à tes anges qui viennent te prendre, n'est-ce pas, pour pas que tu chutes. Ou alors, il a commencé à lui dire, et je te donnerai tous ces royaumes si tu te prosternes devant moi. Il a eu des attaques diverses sur sa personne, le Seigneur. Et à toutes les attaques, il a répondu d'une seule manière, avec la parole de Dieu. La parole de Dieu n'est-elle pas un marteau qui brise le roc et un feu qui brûle? La parole de Dieu n'est-elle pas quelque chose de vivant? N'est-elle pas agissante? N'est-elle pas vivante? Ne divise-t-elle pas l'âme de l'esprit? La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. La parole de Dieu, c'est la parole du Dieu vivant qui a la vie en elle-même. Parce que quand Dieu dit quelque chose, la chose s'accomplit. Elle se tient devant lui. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Elle a la vie de Dieu en elle-même. Et chaque fois, mon frère et ma sœur, que cette parole de Dieu habitera richement dans ton cœur, dans ta vie, comme un fondement inébranlable, toi-même, tu seras inébranlable. Parce que l'ennemi ne pourra pas te toucher. Parce que tu auras la capacité de répondre au travers de la parole de Dieu. Tu auras la capacité de lui répondre. Il est écrit cette chose. Tu ne tenteras pas ton Dieu. Dans Jean 10, versets 19 à 21, voici ce que les Juifs vont dire au Seigneur. Il est dit, au verset 19, il y eut encore de la division parmi les Juifs à cause de ses paroles. Et plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. Il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? D'autres disaient, ces paroles ne sont pas d'un démoniaque. Un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Ils l'ont traité de démoniaque. Ils l'ont traité de fou, d'insensé. Oui, mon frère, ma sœur, si tu vis par l'Esprit de Dieu, si tu marches par l'Esprit de Dieu, si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tôt ou tard, on dira que tu es tombé sur la tête. Pourquoi? Parce que la révélation que tu reçois de Dieu, ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu ne peuvent pas la comprendre. Tu ne peux comprendre les merveilles cachées de Dieu, comme nous avons chanté, ou les choses cachées de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu va te le révéler. La parole de Dieu n'est pas une parole que tu vas comprendre avec ton intellect. La parole de Dieu, c'est une parole qui va t'être révélée. Pour que vous receviez l'esprit de révélation, afin que les yeux de votre cœur soient illuminés. Souvenez-vous de ce que Jésus a dit à l'église de Philadelphie. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, moi aussi je te garderai hors de l'heure de la tentation qui vient sur la terre habiter tout entière. La parole de Dieu a la capacité, le pouvoir et la puissance de nous garder de la tentation. Et si tu fais pas de la parole de Dieu tes délices, tu risques de rentrer en tentation. Si tu fais pas de la prière une finalité dans ta vie, un moyen que tu emploies dans ta vie, tu risques de rentrer en tentation. Une attaque a pour but de malmener la personne, de la discréditer, de la calomnier, de la diffamer, de médire sur elle, d'insinuer, de compromettre, d'imputer des choses qui ne sont que des mensonges. Et bien aimé, quand nous sommes discrédités injustement, quand nous sommes calomniés injustement, alors va naître en nous la souffrance. Car l'injustice fait naître en nous la souffrance, comme elle a fait naître en Jésus la souffrance. Croyez-vous que le roi de gloire, celui qui a tout créé, puisse entendre d'homme irrégénéré de lui dire qu'il est un démon? Mais quel sacrilège! La tentation implique et engendre la souffrance. Hébreux 2:18. Car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, il est à même de secourir ceux qui sont tentés. Car en ce qu'il a souffert lui-même étant tenté, donc il est bien clair que la tentation engendre la souffrance. Et nous avons vu que le moyen d'engendrer la souffrance par l'ennemi dans nos vies, c'est de trouver des éléments dans un complot délibéré pour te discréditer, pour souiller ou bafouer ton honneur, pour dire des choses injustes te concernant alors que tu n'as pas fait ces choses-là. Vous savez, tous ces chrétiens qui papillonnent d'église en église et qui sont touchants en train de critiquer les églises dans lesquelles ils sont. Moi, ce matin, je suis libre pour dire les choses. Je ne vais pas me taire. Qui sont toujours en train de parler du pasteur ou des anciens, mais qui se regardent jamais dans la glace pour voir comment ils sont, bien sûr. Ce sont des délateurs qui ne font que critiquer parce que eux-mêmes sont mal dans leur peau et n'ont pas le courage de reconnaître qu'ils sont mal dans leur peau. Les chrétiens ne doivent pas s'imaginer qu'à un moment donné, ils ne sentiront plus les souffrances de la tentation. Cette pensée est erronée, elle donne un terrain favorable à l'ennemi. Alors, quelle est la solution à la tentation? Ben, c'est la prière. Car la prière manifeste les tentations cachées. Étant constant sur ses gardes contre le tentateur, veillez et priez sans cesse pour que les tentations cachées soient révélées. Cela débouchera sur une victoire constante sur Satan. Vous vous rappelez dans le jardin de Gethsémané, ce que Jésus va leur dire? Et quand il fut là dans ce lieu, il leur dit, priez pour que vous n'entriez pas en tentation. Et le moyen par excellence de pouvoir échapper à la tentation, c'est se tenir sur le terrain de la prière. Le terrain de la prière. Verset 46 de Luc 22, il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Pourquoi? Parce qu'il y avait dans ce jardin de Gethsémani, vous savez, ce lieu dont on dit qu'il était le lieu de pression des olives, pressoir à huile, là où Jésus a été vraiment concassé comme une olive, là où il a été pilé, là où il a été, anéanti. Mais comprenez bien, plus il a été anéanti, et plus une onction d'huile magnifique est sortie de cette souffrance. Alléluia. Tu casses l'olive, tu la piles, mais il va en sortir une huile d'olive pure, vierge. La souffrance dans la tentation, la souffrance dans l'épreuve, va faire sortir de nos vies une nouvelle onction. Tu ne sors pas d'une épreuve comme tu y es rentré. Jamais de la vie. Tu rentres dans une épreuve, tu passes l'épreuve, et pendant l'épreuve, il s'est passé quelque chose dans lequel Dieu a agi, et tu ne sors pas du tout la même chose de l'épreuve. Souvent, l'épreuve nous amène à mesurer la faiblesse de nos forces. L'épreuve nous amène à mesurer que nous sommes insignifiants. L'épreuve nous amène à être sans force, pratiquement anéanti, et n'avoir qu'un recours que de s'appuyer sur le Seigneur. Et quand tu sors de l'épreuve, c'est pour ça que je te dis, tu ne sors pas de l'épreuve comme tu y es rentré, il s'est passé quelque chose au cours de cette épreuve, où là, tu as mesuré tes limites. Parce que tu mesures tes limites dans l'épreuve. Tu ne t'en sortiras pas de l'épreuve avec tes propres forces par Dieu, parce que Dieu te laisse sans force. Il te laisse sans force. Tu sais pourquoi ? Pour que tu dépendes totalement de lui. 1 Corinthiens 10, verset 13 va affirmer ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était une tentation humaine. Et Dieu est fidèle, qui ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de ce que vous pouvez supporter, mais avec la tentation, il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'était une tentation humaine, car Dieu ne tente personne. Répétez avec moi, Dieu ne tente personne, et personne n'est tenté par Dieu, si ce n'est notre chair ou l'ennemi. Et c'est là qu'il nous faudra avoir le discernement entre ce qui est de la chair et ce qui est de l'ennemi. Donc aucune tentation ne vous est survenue qui n'était une tentation humaine, et Dieu est fidèle. Tu répètes avec moi, Dieu est fidèle. Répète-le, Dieu est qui ne permettra pas que tu sois, que vous soyez tenté au-delà de ce que vous pouvez supporter. Mais avec la tentation, il fera aussi l'issue. Voilà. Il fera aussi l'issue afin que vous puissiez la supporter. Il va aller jusqu'à un certain point et le Seigneur va voir que là, on peut pas aller plus loin de supporter plus que ça. Il en fera l'issue. Et tu sortiras pas de cette épreuve comme tu y es rentré. C'est pas possible. Le degré de la victoire déjà remportée détermine le degré de notre connaissance. Ce qu'il nous faut, c'est la capacité de discernement pour différencier entre les diverses tentations et particulièrement celles qui viennent de l'action du tentateur. Parce qu'il y a des tentations par la chair du vieil homme et des tentations par l'ennemi. Il faut savoir d'où ça vient. Ne mettez pas tout sur le dos de l'ennemi, mais soyez clair avec vous-même et voyez-vous si c'est pas votre vieil homme qui se complaît à... Alors, ce qu'on a assisté ces dernières années, enfin, ces dernières 30-40 années, c'est de cette absurdité notoire dans l'Église, je le dis comme je le pense, c'est qu'on disait, si c'est pas Dieu, c'est Satan. Si c'est pas Satan, c'est Dieu, mais hélas, c'est jamais nous. C'est la faute de Dieu ou c'est la faute de Satan, c'est jamais ma faute. Pauvre innocent que je suis. Parce que c'est Dieu qui allume Internet pour aller sur les sites porno. C'est le diable ou c'est toi qui cliques sur la souris? Ah mais c'est le diable, il a pris ma main pour cliquer. Je t'en prie, arrête ton baratin. Ce qu'il nous faut, c'est la capacité de discernement pour différencier parmi les diverses tentations et particulièrement celles qui viennent de l'action du tentateur. Premièrement, il y a les tentations sur la chair, c'est-à-dire le vieil homme, la chair, la vieille nature imparfaitement crucifiée. Ah, le jour où tu pourras dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ou j'étais crucifié avec le Christ. Ou le jour où nous arriverons à dire cela, ça voulait dire que la chair, elle aura été anéantie. Et qu'on n'obéira plus au désir de la chair, mais qu'on obéira au désir de l'esprit. Mais Paul le dit, la chair combat contre l'esprit, et l'esprit combat contre la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Répète avec moi. La chair combat contre l'esprit, et l'esprit combat contre la chair, afin que je ne fasse pas ce que j'ai envie de faire. Quel combat ! combat au-dedans, combat au-dehors. Mais non, quand je suis à Christ, c'est bon, je prends la chaise longue, c'est bon, je me repose. Rien ne peut m'arriver, rien ne peut t'arriver. Jésus a dit, prenez garde, hein, que personne. Et où elle est ma responsabilité? Garde-toi toi-même. Donc, la première tentation qui va arriver, c'est sur la chair, sur le vieil homme, la vieille nature imparfaitement crucifiée. Deuxièmement, il y a les tentations qui sont en relation avec quoi? Avec le quoi? Et dit, mais avec quoi? Mais il y a là-bas qui savent. Avec quoi? Eh non, le monde. Non, le monde n'y t'étonne pas. On est confronté à des images qu'on cherche pas. Moi, je suis abonné à free.fr. Et cette semaine, sur la page d'accueil de free.fr, ma femme et moi, on a regardé, on a dit, mais ils sont complètement malades. Il y a une femme totalement, pratiquement nue qui présentait une voiture. Je me demande la relation qu'il y a entre la voiture et la femme nue. Les tentations en relation avec le monde. Regardez 1 Jean 2, verset 15 à 16. 1 Jean 2, verset 15 à 16. N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Mais qu'est-ce que ça veut dire aimer le monde? Qu'est-ce que ça veut dire aimer le monde? Est-ce que nous aimons ce que le monde produit? Parce que tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair. Ah, la convoitise de la chair. Qu'est-ce que ça veut dire la convoitise de la chair? C'est le désir de la chair. Le désir pour ce qui est défendu. C'est le mot en grec. La luxure de la chair. Je me repais dans la luxure de ma chair. Le monde nous offre des choses que nous n'aurions même pas osé imaginer, nous les anciens, il y a 40 ans en arrière. Il y a 40 ans, 50 ans en arrière, frères et sœurs, on parlait pas de mariage homosexuel. On parlait pas de femmes qui se marient entre eux et qui veulent avoir des enfants. Alors les femmes, elles se font inséminer artificiellement pour qu'elles aient des enfants, parce qu'elles vivent en couple de femmes ensemble. Et aujourd'hui, nous acceptons cette prise de position du monde comme quelque chose qui est acquis, qui est normal. Les convoitises des yeux. Dans des dessins animés, des fois, vous voyez les yeux. Dans Speedy Gonzales. Convoitise des yeux. Je convoite pour satisfaire les besoins de ma chair. Mais la convoitise, elle a toutes sortes de formes, hein, frères et sœurs. C'est pas que tu, toi, homme, que tu regardes les femmes. C'est pas tout ça. C'est que tu veux posséder la chose que tu vois. À tout prix. Tu es prêt même à t'endetter pour l'avoir. La convoitise des yeux et l'orgueil. Alors, le mot orgueil, il est, j'aurais pas vu le mot orgueil en grec comme ça. Parce que nous, en français, on a une définition un petit peu différente. Ça se rejoint, mais c'est parole de fanfaronnade. C'est de la vantardise. C'est des satisfactions insolentes. C'est assurance insolente qui croit dans sa propre vie. C'est ça, l'orgueil. Je suis autosatisfait de mon moi. Or, frères et sœurs, aujourd'hui, excusez-moi, quand je me regarde au miroir, il y en a qui disent, je vais à la diététicienne, il faut que je maigrisse un peu. L'autre, il dit, je veux faire tirer un petit peu les rides parce que mes yeux tombent comme ça. Mais on a le culte du corps. Parce que le corps et notre corps, c'est l'apparence que nous donnons. Paul nous avertit, ne marchez pas par la vue, mais marchez par la foi. Et le monde s'en va et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure, comment t'as dit mon frère ? Merci, éternellement. 1 Jean 5, versets 4 à 5, va nous dire, « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. » Alors si tu dis être né de nouveau, si tu dis vraiment que l'Esprit de Dieu vit en toi, comment se fait-il que tu aies un cœur partagé entre les choses du monde et les choses de Dieu? Croyez-vous que ça soit possible? Est-ce que la parole de Dieu n'a pas un certain tranchant? N'est-elle pas catégorique quand elle nous annonce ces choses? Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Qui est celui qui est victorieux du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Donc nous avons vu premièrement la tentation qui vient sur le vieil homme, la chair pas encore crucifiée, la chair qui continue à diriger sa vie, même sa vie spirituelle. Je me fais comprendre, c'est une espèce de contradiction que la chair puisse mener la vie spirituelle. Mais oui, notre âme peut mener notre vie spirituelle. ce qui doit mener notre vie spirituelle, c'est pas mon âme, c'est pas mon corps, c'est mon esprit régénéré par l'Esprit de Dieu. Cela, c'est juste. Non pas les sentiments de mon âme, qui me sont, par-dessus tout, trompeurs, à moins qu'ils soient régénérés par l'Esprit de Dieu. Et de rentrer dans le fruit de l'Esprit, n'est-ce pas, qui est la maîtrise de soi, qui est la patience, etc., etc. Et j'en passe des meilleurs parce que ça nous dérange un petit peu quand nous les citons. Parce que quand nous regardons nos vies et la capacité que nous avons à démarrer au premier coup de contact quand quelque chose ne nous plaît pas, hop, comment la chair, elle bondit comme un tigre devant. La réaction. Alors, premièrement, le terrain de la chair du vieil homme. Deuxièmement, les tentations qui viennent du monde. Troisièmement, celles qui procèdent des esprits impurs et souillés. Parce que là aussi, il y a des tentations. Le point crucial que nous devons affronter pour celui ou celle qui est tenté, c'est de savoir si la tentation procède d'un mauvais esprit qui a élu domicile ou bien de la nature charnelle mauvaise. Voilà. Est-ce que c'est un esprit qui agit ou c'est ma nature charnelle encore qui me joue des tours? Et c'est là qu'il faut avoir du discernement. Alors, pour le savoir, il nous est impératif d'avoir comme base de notre vie ce passage de Romains chapitre 6. Alors, on va le lire ensemble, ce Romains 6, du verset 10 à 23, qui nous dit ceci. Regardez bien ce que Paul nous dit, et c'est ce passage qui va nous faire comprendre si c'est la nature charnelle qui agit ou si c'est les esprits mauvais qui agissent. Romains 6, verset 10 à 23. Voilà ce que dit Paul. Donc, ce passage-là va nous permettre de savoir si c'est la nature charnelle qui agit ou si c'est les esprits mauvais qui se cachent et qui agissent au travers d'un péché particulier. Romains 6, verset 10 à 23. Car en ce qu'il est mort, c'est-à-dire le Christ, il est mort une fois pour toutes au péché, mais en ce qu'il vit, il vit à Dieu. De même, vous aussi, tenez-vous vous-même mort au péché, mais vivant à Dieu dans le Christ Jésus. Et voilà ce que Paul va déclarer. Que le péché donc ne règne point dans votre corps mortel, c'est-à-dire que le péché ne gouverne pas vos vies, que le péché n'exerce pas sur vos vies, n'est-ce pas, pour que vous obéissiez aux convoitises, c'est-à-dire aux désirs pour ce qui est défendu. Et ne livrez pas vos membres au péché comme instrument d'iniquité, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme d'entre les morts étant fait vivant, et vos membres à Dieu comme instrument de justice. Car le péché ne dominera pas sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Qu'ainsi n'advienne, dit Paul. Ne savez-vous pas qu'à quiconque vous vous livrez vous-même comme esclave pour obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Or, grâce à Dieu, de ce que vous étiez esclave du péché, mais de ce qu'ensuite vous avez obéi de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été instruit. Mais, ayant été affranchi du péché, vous avez été asservi à la justice. Je parle à la façon des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair, car ainsi que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quel fruit donc aviez-vous alors dans des choses dont maintenant vous avez honte? Car la fin de ces choses est la mort. Mais maintenant, vous avez été affranchis du péché et asservis à Dieu. Vous avez votre fruit dans la sainteté et pour fin, la vie éternelle. Car le gage du péché, c'est la mort. Mais le don gracieux de Dieu, c'est la vie éternelle dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est-à-dire que nous devons chaque jour confesser comme que nous sommes morts au péché et vivant pour Dieu en Christ en obéissant à ce commandement. Chaque jour, tu dois dire que tu es mort au péché et que tu es vivant pour Christ. Tu dois le confesser chaque jour. C'est un commandement de Dieu. C'est-à-dire que tu es mort au péché et que tu es vivant pour Dieu en Christ en obéissant à ce commandement. Quel est ce commandement? Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels. Que le péché ne règne donc plus dans vos corps mortels. Lorsqu'il y a tentation précise, prendre aussitôt position par le moyen de la foi, de cette attitude enseignée par Romains 6, notre vieil homme a été crucifié afin que le péché, le corps de péché fût détruit et que nous fussions plus asservis au péché. Je ne suis plus asservi au péché car le péché ne règne plus dans mon corps mortel. Les membres de mon corps sont asservis maintenant à la justice de Christ. Si Christ vit en moi, est-ce possible que je continue de pécher? Même si ma nature n'est pas entièrement régénérée, mais l'Esprit de Dieu en moi ne m'avertit-il pas des positions dans lesquelles je me trouve? N'avez-vous jamais été repris par le Saint-Esprit quand quelque chose qui n'était pas très très juste allait se passer? N'avez-vous jamais été repris dans votre esprit quand vous alliez commettre une bévue? Mais si vous la faites consciemment, c'est que là vous êtes responsable devant Dieu. Et que tu ne confesses pas que le péché ne règne plus dans ton corps, mais que le péché, tu le flattes encore, n'est-ce pas? Vous rappelez ce que Dieu dit à Caïn? Qu'est-ce que Dieu dit à Caïn? Il dit, Caïn, le péché est couché à ta porte, mais toi, domine sur lui. Le péché ne doit pas te dominer, mais tu dois dominer le péché. Si l'expression loyale de notre volonté est de vouloir vivre et obéir à ce commandement, c'est-à-dire que le péché ne règne plus dans vos corps mortels et que malgré tout, la tentation subsiste, alors il faut se tourner contre les esprits mauvais qui peuvent éveiller les désirs coupables et les contrefaire. Si malgré cela, tu te tiens devant Dieu et que encore la tentation subsiste, alors là, il y a un problème. C'est que les esprits ont un droit encore d'agir. Tu sais que tu peux reprendre ta liberté. Et tu sais que cette liberté que tu peux reprendre dépend que de toi. C'est ta volonté d'obéir qui est ton salut. Et ta volonté de désobéir, c'est pas ton salut, c'est ta défaite. Comment se fait-il que tu aies de la volonté pour aboutir à ce que tu as envie? Et comment se fait-il que ta volonté tombe quand les choses qui t'assaillissent et qui te plaisent, mais auxquelles tu veux résister et tu ne peux pas résister, te dominent? Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Tout simplement, il y a un problème. Jacques va dire, en Jacques 1, 14, il dit, « Mais chacun est tenté, étant attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, ayant conçu, elle travaille dans ton cœur. Convoite les choses. Tu peux convoiter tout ce que tu as envie de convoiter, n'est-ce pas? Et la convoitise, ayant conçu, c'est-à-dire, elle a amorcé, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. C'est un processus dans lequel tu es engagé. Si la convoitise arrive, alors tu te mets sur le terrain de ce commandement. Le péché ne règne plus dans mon corps mortel, car Christ vit en moi. Si tu prends cette position, tu vas repousser cette convoitise, elle va s'éloigner de toi. Mais si elle demeure, cette convoitise, et qu'elle continue à t'harceler, alors il y a un problème. Jacques de rétorquer en Jacques 4, verset 1 à 5, « Mais d'où viennent les guerres et d'où les batailles parmi vous? N'est-ce pas de cela, de vos voluptés qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous n'avez pas. Vous tuez, vous avez d'ardents désirs et vous ne pouvez obtenir. Vous contestez, vous faites la guerre. Vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de le dépenser pour vos voluptés. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. » Je me souviens de mardi dernier, il y avait un passage de l'Écriture qui disait « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Adultère, ne savez-vous pas que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu? Quiconque donc voudra être ami du monde se constitue ennemi de Dieu. Ou pensez-vous que l'Écriture parle en vain? Car l'Esprit qui demeure en nous désire-t-il avec envie ?» Jacques, il est très au courant de ces choses. Est-ce que c'est l'esprit qui est en nous qui désire avec envie la convoitise? Non, c'est le combat qui sont dans nos membres, c'est la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, et c'est l'orgueil du monde, c'est la nature humaine imparfaitement régénérée. C'est pour ça que l'apôtre Paul nous appelle à être toujours remplis du Saint-Esprit. Car l'Esprit de Dieu, il ne désire pas avec envie les choses qui sont dans le monde. Le Saint-Esprit de Dieu avec l'Église dit Maranatha, reviens Seigneur Jésus. L'Esprit de Dieu va engendrer en nous la sainteté, la pureté. Car les esprits impurs peuvent contrefaire la vieille nature, ses pensées, ses désirs, ses paroles, coupables. Frères et sœurs, il y a des choses qu'il faut être bien au clair. Pourquoi y a-t-il certains chrétiens ou chrétiennes qui, pendant les nuits où ils dorment, surtout les femmes, n'est-ce pas? J'ai entendu souvent ça par le témoignage de certaines femmes qui disaient que pendant la nuit, des démons venaient les prendre sexuellement, des esprits impurs et succubes. Mais qu'est-ce qu'y a-t-il pour qu'une chrétienne puisse vivre ces choses-là? C'est qu'il y a un problème, ces fameux esprits incubes et succubes. Et quand il y a un problème, il faut le résoudre. Christ est venu afin de détruire les œuvres du diable. Christ a été manifesté pour cela. Il est venu pour vaincre le prince de ce monde. Il est venu pour mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Et les ennemis de Dieu devraient être tes ennemis et ne pas pactiser avec eux. Bien des croyants s'imaginent lutter contre le vieil homme quand en réalité ces manifestations sont l'œuvre de l'ennemi. Et c'est là, frères et sœurs, qu'il nous faut avoir le discernement. Si dans ta vie tu te places sous l'obéissance de ce commandement de Romains 6 qui dit que le péché ne règne plus dans nos corps mortels, que je ne suis plus asservi aux passions et aux convoitises de la chair pour vivre par l'Esprit de Dieu, et que malgré toutes ces choses, si chaque jour je me mets sous l'obéissance de ce commandement et qu'il y ait quand même quelque chose qui se passe, alors là, je dois me poser la vraie question. Qu'est-ce qui se passe? Et on dit que le chrétien qui vient à Jésus, c'est fini, tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil et tu vas gaiement jusqu'à la fin de ta vie, n'est-ce pas? Tu vas béatement vers l'enfer. Parce que je vais te dire, mon frère, ma sœur, tu es esclave de ce qui te domine. Soit le péché, soit la justice. Vous me supporterez encore un peu? Toutefois, si le chrétien ne vit pas selon Romains 6, les contrefaçons de l'ennemi ne sont pas nécessaires. La vieille nature se prête merveilleusement bien à l'activité des puissances des ténèbres. Si tu vis par la chair, c'est pas la peine, n'est-ce pas? Si tu vis pas selon Romains 6, c'est pas la peine. Ta chair, elle est un terrain idéal pour l'ennemi. Un jour, j'ai entendu un pasteur, il y a bien des années, qui comprenait pas, il disait, mais c'est pas les démons, c'est la chair. Et il comprenait pas qu'il était en train de dire que la chair, elle était soumise aux actions des esprits démoniaques. Mais bien sûr que la chair, c'est un corps de péché. Et quand vous savez que Satan, il est le prince nommé Belzébul, c'est-à-dire le prince des mouches, le seigneur des mouches, le seigneur du fumier, n'est-ce pas? Un seigneur qui se repaît des pourritures, n'est-ce pas? Une mouche, c'est quelque chose qui naît de la pourriture, des excréments des animaux. Et quand ils sont nés, elles viennent manger les mêmes excréments. Ainsi, Satan, il se nourrit du péché de l'homme. Dieu avait dit au serpent, tu marcheras, tu ramperas sur la terre. Tu te nourriras de la poussière de la terre. Est-ce que vous avez vu un serpent se nourrir de poussière, vous? Oui, mais parce que l'homme a été fabriqué à partir de la poussière. Alors le serpent peut se nourrir du péché de l'homme. Faut bien comprendre les choses de l'Écriture. Mais moi, j'appartiens à Jésus. Oui, tu appartiens à Jésus si tu obéis à ses commandements. Si du moins tu es fondé, enraciné et établi dans le Christ. Si du moins l'évangile de la grâce, tu le vis d'une façon pleine et entière devant le Seigneur. Alors là, oui. Il y a des tentations invisibles et des tentations dans le visible, d'ordre physique, psychique et spirituel. Il y a trois types de tentations. Il va s'attaquer sur les trois types de tentations. Sur ton physique, sur ton psychique et sur ton spirituel. S'il peut, il le fera. Ne crois pas, mon frère, ma sœur, que tu es là en tant qu'enfant de Dieu et que tu n'as rien à redouter, n'est-ce pas, des attaques de la nuit. Bien plus, il est dit que Satan, il a été précipité, il est animé d'une grande rage, il est venu pour faire la guerre aux saints. Il est venu pour faire la guerre aux saints. Tentation dans le désert direct, ce que Jésus a subi par le diable, qu'il est venu directement le tenter. Ça, c'est des tentations directes. Et des tentations indirectes, comme Jésus l'a eu par sa propre famille. Après ces choses, Jésus se tenait en Galilée, car il ne voulait pas se tenir en Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des tabernacles, était proche. Ses frères lui disent donc, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Vous vous rendez compte? Il est dit un peu auparavant qu'il ne croyait pas en lui, et voilà que maintenant, il commence à lui dire, va, monte tes miracles. Ou tu crois pas. Et en disant ces choses, qu'est-ce qu'il faisait? Il tentait Jésus. Il tentait Jésus. Et, car il est dit, va, pars d'ici, va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car nul ne fait quelque chose en secret, ne cherche à être lui-même publiquement connu. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde, ils vont lui dire. Car ses frères ne croyaient pas en lui non plus. Donc, il disait, monte tes trucs et puis croyez pas. Jésus leur dit donc, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps à vous est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais il me haït parce que moi, je rends témoignage de lui que ses œuvres sont mauvaises. Et chaque fois que vous rendrez témoignage du monde parce que ses œuvres sont mauvaises, vous serez haïs par les gens du monde. Vous montez à cette fête, moi je ne monte pas à cette fête car mon temps n'est pas encore accompli. Leur ayant dit ces choses, il demeura en Galilée. Dans un autre passage, les pharisiens vinrent et tinrent conseil pour l'enlacer dans ses paroles. Ils voulaient le prendre à son propre piège au Seigneur, dans ses paroles. Mais les paroles du Seigneur, c'est des paroles de vie éternelle, n'est-ce pas? Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens, disant, maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Voilà, je te flatte. Mon bon monsieur, que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Que tu as un beau plumage, que tu pièches bien, que tu as un beau ramage, sans mentir. La fable de la fontaine a beaucoup à nous apprendre, sans mentir. Ils lui envoient leurs disciples avec les Hérodiens disant, maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie en vérité, que tu te n'embarrasses pas de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. C'est un coup de, je te passe la main dans le dos. Vous savez, ces chrétiens, dans cette église, j'ai jamais entendu qu'il ait prêché comme ça. Oh, quelle louange, quelle adoration. Oh, allez, vas-y, mon bon monsieur. Ah, apprenez que tout flatteur vit au dépend de celui qui l'écoute. Et en avant, je te passe de la gomina. Et en avant, je te passe dans le dos. Dis-nous donc, que te semble, est-il permis de payer le tribut à César ou non? Quel piège. Et Jésus connaissant leur méchanceté. Il connaissait leur méchanceté, mais eux disaient, nous savons que tu es vrai. Philippe, je sais que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu en vérité. Mais que tu t'embarrasses de personne, n'est-ce pas, Philippe? Que tu ne regardes même pas l'apparence des hommes. Jésus, connaissant leur méchanceté, leur dit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Hypocritesse, en grec, c'est un comédien. Pourquoi jouez-vous la comédie? L'enfant de Dieu ne doit pas seulement résister au diable quand il est tenté d'une manière visible ou quand il est conscient d'une attaque, mais il doit prier par une prière constante et amener à la lumière l'action déguisée de Satan, les intentions cachées, sachant que le tentateur est toujours occupé à dresser quelques nouveaux pièges. Voilà la prière. La prière, c'est le moyen de nous garder du tentateur. Car ceux qui, par la prière constante, amènent à la lumière les œuvres cachées de l'ennemi, agrandissent par leurs expériences même le champ de leur connaissance et de leur discernement. Ils deviennent donc toujours plus capables de collaborer avec le Saint-Esprit de Dieu pour la délivrance de ceux ou celles qui sont encore sous l'influence du diable. Car pour être victorieux de la puissance des ténèbres, faut-il encore se rendre compte de leurs œuvres. C'est comme ça que Paul pourra dire aux Thessaloniciens, nous allons voulu une fois, aller une fois, deux fois vers vous, et Satan nous en a empêchés. Il avait bien discerné d'où venait le problème. C'était pas faute d'argent, c'est Satan qui l'empêchait de monter vers eux. Alors, comment remporter la victoire? Point d'interrogation. Et c'est la finalité. Comment pouvons-nous remporter la victoire? La victoire s'apprend par l'expérience, que ce soit pour les tentations directes ou indirectes. On se rappellera que toutes les tentations n'apparaissent pas toujours comme telles, et c'est souvent parce qu'elles sont cachées qu'elles ont tant de puissance. Bien des personnes s'imaginent que l'on est conscient de l'approche d'une tentation, aussi bien de l'entrée d'une personne dans une chambre ou que le nez au milieu de la figure. Ça, c'est faux. On croit que l'on est conscient de l'approche d'une tentation. Mais vous savez que Satan, lui, se cache. Il se tapit. Il va venir vous tenter directement comme ça. Vous n'êtes pas le Seigneur. Et puis Dieu nous garde quelque part. Il va faire en sorte de se tapir et d'attendre le moment opportun, le moment favorable pour venir te tenter. Donc nous ne combattons qu'une petite portion des œuvres du diable, seulement l'activité surnaturelle mauvaise dont nous sommes conscients. Aussi, ces personnes ne reconnaissent la tentation que lorsque la chance se présente à elles, qu'elle est visiblement mauvaise, positivement mauvaise, d'après la connaissance limitée du mal. Mais si la tentation revêt des dehors honnêtes, naturelles, si elle se présente à couvert de ce qui semble être normal ou licite, alors elle passe inaperçue. Quand le prince des ténèbres se déguise en ange de lumière, cette lumière est en réalité ténèbres. Les ténèbres s'opposent à la lumière. L'ignorance s'oppose à la connaissance et le mensonge à la vérité. Cependant, le croyant est appelé à démasquer l'ennemi dans le domaine du bien supposé. Et voilà, pour terminer, ce que le prophète Ézéchiel dit dans Ézéchiel 44, 23, il dit ceci. Ils instruiront mon peuple. Et qu'est-ce que nous faisons, frères et sœurs, en ce moment, depuis plusieurs semaines, dans l'enseignement du combat spirituel? Ils enseigneront mon peuple à quoi faire, à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane. Ils lui feront connaître la différence entre ce qui est impur et ce qui est pur. C'est ce pourquoi, ces dernières semaines, nous continuons à enseigner sur ce combat spirituel, pour amener le peuple à considérer les choses, à comprendre ce à quoi il est confronté, à se revêtir de toute l'armure de Dieu, à résister au temps mauvais, à éteindre les traits enflammés du malin par le bouclier de la foi. Frères et sœurs, c'est un combat, c'est un combat. À cause de l'ignorance, aujourd'hui le peuple de Dieu est-il capable de discerner entre le bien et le mal? Ne tombe-t-il pas continuellement dans l'erreur, appelant le bien mal et le mal bien? À cause de l'ignorance ou d'une connaissance limitée, les enfants de Dieu attribueront au diable les œuvres divines. Ils appelleront divines les œuvres du diable. Personne ne leur a enseigné à discerner entre ce qui est pur et ce qui est impur, à se rendre compte de ce qui procède de Dieu et ce qui vient des malins, quoiqu'il soit constamment dans l'obligation de choisir entre une chose et l'autre, même sans en avoir conscience. Et nous sommes chaque jour confrontés à ce type de situation. Chaque jour. Que ça soit dans ton lieu de travail, ton milieu familial, quand tu sors à l'extérieur, t'as pas remarqué. Et tu te demandes, mais pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a une telle opposition? Et même si elle n'est pas directe, cette opposition, tu la ressens. Spirituellement, tu la ressens. Tu sens qu'il y a une opposition contre ta personne, contre ce que tu dis. Tu sens une opposition à cause de l'Esprit de Dieu qui est en toi. Tu sens quelque chose qui s'oppose à toi. C'est peut-être pas conscient, mais dans l'Esprit, tu le sens. Si l'Esprit de Dieu vit en toi, tu peux discerner la situation dans laquelle tu te trouves. Il y a un prophète qui disait, mon peuple meurt faute de connaissance. Frères et sœurs, ce message de ce matin est la continuité de celui de mardi. Mais ce qu'il fallait comprendre ce matin, c'est que lorsque nous nous trouvons sur le terrain de la foi et que nous avons compris que Christ vit en nous et que le péché ne doit plus régner en nous, dans nos corps mortels, que nous restons sur le terrain de l'obéissance de ce commandement, alors nos vies peuvent être un vrai délice. Mais si malgré cela, il y a encore des problèmes, alors faisons attention qu'il n'y ait pas là quelques petits esprits méchants, mauvais, qui viennent nous empoisonner notre vie. Et nous devons y faire face, dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous ne devons pas nous laisser dominer par le mal, mais dominons le mal par le bien. Nous ne devons pas continuer à supporter des situations, année après année, mois après mois, des situations qui nous empoisonnent notre vie, comme si Dieu n'avait pas la solution pour que nos vies soient délicieusement bonne. À quoi servirait-il que nous ayons toute la connaissance de l'Écriture si à un moment donné, nous n'arrivions pas à mettre un seul verset en pratique? Et dans ce domaine-là, frères et sœurs, réfléchissez un instant, revivez certaines situations que vous avez vécues dans le milieu familial, dans le milieu professionnel, où vous avez été discrédité, où on a mal parlé de vous, alors que vous ne le méritiez pas, que vous avez donné le meilleur de vous-même, alors qu'on a tenté de vous déshonorer, qu'on a tenté de mettre l'opprobre sur vos vies, qu'on a tenté par des mots mesquins, des mots méchants, d'ajouter des blessures à vos vies. Tout ça, frères et sœurs, il nous faut le discerner. Et comme dit l'Écriture, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang. Mais nous avons à combattre les esprits mauvais, les esprits méchants, les puissances de méchanceté qui sont dans les lieux célestes et qui viennent pourrir la vie des enfants de Dieu, qui viennent chercher, n'est-ce pas, la petite bête, comme on dit, le pouls sur la tête, pour pouvoir nous accuser. Que Dieu nous libère de tout cela. Que Dieu nous libère de toutes ces choses. Mais je te le dis, si tu as agi d'une manière consciente, sachant les choses de Dieu, fais attention à ce que tu fais. La patience de Dieu, c'est ton salut. Fais attention à ce que tu fais.
Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.